Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une affaire criminelle belge, mais totalement universelle. Un scénario assez rare. Un homme, Bruno Lieber, qui en 2015 meurt d'un cancer, mais ça n'est pas un cancer. C'est un assassinat. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec la sœur de la victime, Anne-Marie Lieber, qui, vous le verrez, a eu un rôle déterminant dans cette histoire. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans la nuit du 11 au 12 mars 2015, à Trois-Ponts, dans la région de Liège, en Belgique, Bruno Lieber, 54 ans, meurt des suites d'une longue maladie, comme on dit. Un cancer, disons le mot. 5 ans qu'il traînait ça. 54 balais, c'est jeune. Foutue maladie. Bruno laisse derrière lui une femme, Nancy, et 3 enfants. Et des amis. Il était pompier volontaire à Trois-Ponts, ouais. Très apprécié. Deux jours plus tard, la famille se rassemble pour les obsèques, d'abord à la maison, comme c'est l'usage, et ensuite tout le monde s'entasse dans des voitures pour aller au cimetière. Et dans la voiture, c'est la sœur de Bruno, Anne-Marie, qui raconte la scène. Nancy, la veuve, reçoit un coup de fil. Elle est en route pour aller enterrer son mari. Allô ?
Oui. Vous appelez pour la voiture ? Oui, elle est en bon état. Aucun problème. Oui, vous pouvez venir la voir.
C'est de la voiture de Bruno qu'elle parle. Elle l'a déjà mise en vente. Et je peux vous dire que la belle-sœur qui est là, dans la voiture, waouh, ça la choque. Et vous aussi, et moi aussi. C'était pas urgent. Elle avait le temps de sécher ses larmes. Et quand ils arrivent au cimetière, la porte s'ouvre, elle descend de la voiture. La dégaine ! Nancy est habillée en rouge. Une robe assez sexy, d'ailleurs. Et avec ça, maquillée comme un camion volé. Pimpante, quoi. Très pimpante pour une veuve.
Hein ? Tu as mis une robe rouge ? Je sais que Bruno aurait aimé que je sois joyeuse et pas malheureuse.
Ça se défend, si c'est ce qu'il voulait. Pendant la cérémonie, Nancy prend le micro. Elle lit un petit poème qu'elle a écrit elle-même. C'est émouvant. Mais pas l'ombre d'un sanglot dans la voix. Et la banane d'une oreille à l'autre. C'est gênant. C'est très gênant. Dans sa robe rouge, là. Elle ne fait même pas semblant. Mais bon, je vous rappelle que Bruno est mort d'une longue maladie qui a duré des années, un cancer des os, qu'il traînait depuis 2009. Il détestait les médecins, les hôpitaux. Il ne s'est pas soigné. Pas de chimio, pas de radiothérapie, rien. Et jusqu'en 2011, il n'a rien dit à sa sœur, par exemple. Et après, il s'est laissé mourir. C'est terrible parce que c'est très douloureux, un cancer des os. Et puis un jour, il ne pouvait plus marcher. Il est resté au lit. Et il est mort dans son lit. Et Nancy, je sais ce que vous pensez d'elle à cause de sa robe rouge, mais Nancy s'est occupée de lui jusqu'au bout. Elle était aux petits soins avec lui. Elle l'a accompagné du mieux qu'elle le pouvait. Faut le faire. Et objectivement, la mort de Bruno met fin à ses souffrances. D'une certaine manière, c'est un soulagement. Mais de là à mettre une robe rouge, tout de même. Il faut que je vous raconte maintenant une scène qui a lieu le soir des obsèques, à la maison, chez Bruno et Nancy. Anne-Marie, la sœur de Bruno, est là, et Nancy, la veuve, est juste en face d'elle, dans un fauteuil. Je ne sais pas si je dois vous raconter cette scène en vérité, parce que moi, je n'en crois pas un mot. Mais Anne-Marie, la sœur de Bruno, prétend qu'elle a entendu son frère lui parler.
« Je ne suis pas mort tout seul. On m'a fait mourir. »
Je vous jure que je n'ai pas changé d'avis sur ce genre d'histoire, hein. Je n'y crois pas. Pour moi, c'est baliverne. N'empêche qu'Anne-Marie, c'est à cette phrase qu'elle va s'accrocher. On m'a fait mourir. Et ça, plus le reste, elle a d'emblée un gros doute sur les conditions de la mort de son frère Bruno. Le lendemain, Anne-Marie Lieber, la sœur, se rend chez les policiers dans la banlieue de Liège.
Elle avait mis une robe rouge. Elle n'a pas pleuré une minute. Et sur la route du cimetière, elle s'est occupée de vendre sa voiture.
Pour les flics, c'est un peu léger. Mettez-vous à leur place, enfin. On n'accuse pas quelqu'un de meurtre pour une robe rouge. Et ça se complique quand Anne-Marie va au bout de son histoire.
Mon frère, il m'a parlé après sa mort. Il m'a dit qu'on l'avait fait mourir.
Ah ouais. D'accord, elle est en surchauffe, la dame. Bien le bonsoir et bonjour chez vous, enfin, mettez-vous à la place des policiers belges. Une femme qui entend des voix, ça n'est pas sérieux. Cela dit, il convoque quand même Nancy. Nancy Krings, c'est son nom.
Est-ce que vous pouvez, madame, nous dire dans quelles circonstances est mort votre mari?
Bien le soir du 11 mars, il n'a pas voulu manger. Il a dit qu'il se sentait pas bien. Alors il s'est allongé dans son fauteuil, bon, ça faisait déjà plusieurs semaines, qu'il dormait plus dans notre chambre, il pouvait plus monter à l'étage. Et donc moi je dormais avec lui en bas, lui dans le canapé, et moi dans le fauteuil. Et puis vers 11h30, j'ai été réveillé en sursaut. Il était en train de faire une crise d'angoisse, il m'a dit « Je sens que je vais mourir ». Et puis, il a été pris de convulsions. Il est mort dans mes bras. Un arrêt cardiaque, je pense. J'ai au moins accompagné mon amour dans la mort. Je me préparais, vous savez. Je savais que ça arriverait un jour.
Crise cardiaque. C'est effectivement ce qu'indique le permis d'inhumer, signé par le médecin qui est venu constater le décès. Les policiers n'iront pas plus loin. Le dossier est clos. Mais à trois ponts dans les semaines qui suivent, les gens n'en reviennent pas de l'attitude de Nancy. On la voit chez l'esthéticienne, et ensuite tous les quatre matins chez le coiffeur, et tous les jours, une nouvelle robe.
Et vous savez le pire? Elle s'est fait poser de faux ongles. Ah, c'est la veuve joyeuse, là, Nancy.
Oh ben, t'as vu ses cheveux? Elle s'est fait faire des mèches de toutes les couleurs. Et elle a même des mèches bleues.
Et un jour, elle finit par cracher le morceau à ses proches. Elle a retrouvé l'amour.
Mais j'ai eu un coup de foudre.
Et vous savez où?
Aux obsèques. La petite robe rouge a eu son effet, hein. Elle est pas énorme, celle-là.
Rencontrer son nouvel amour aux obsèques de son mari. Et d'après ce qu'elle a dit à ses amis, ils se sont galochés dès la sortie du cimetière. Je vous jure. Et d'ailleurs, très vite, elle annonce qu'elle va se remarier. Dans la famille de Bruno, si vite, ça passe mal. Heureusement, la liaison ne dure pas. Mais pour la sœur qui entend des voix, Anne-Marie, cette histoire est une preuve de plus. Elle veut relancer l'enquête. Et d'ailleurs, elle connaît un commissaire de la police judiciaire fédérale. Alors elle le contacte.
Oui, tu vois, je veux pas me montrer insistante ou suspicieuse, mais je veux pas te faire perdre ton temps, mais quand même, son attitude depuis sa mort, la vente de ses biens, sa relation avec un autre homme, enfin moi je sens que c'est louche, tu vois.
Je comprends, Anne-Marie, mais tu vois, on n'a pas de preuves, quoi. On peut pas lancer une enquête sur cette base, quoi. Faudrait que t'aies d'autres éléments. Donc je vais te dire... Bah, essaye de récolter des infos auprès des amis et tu me les fais remonter. Sinon, on pourra rien faire. Hein.
Et c'est comme ça qu'Anne-Marie Lieber se lance dans sa propre enquête. Elle contacte tout l'entourage de son frère Bruno, ses voisins, ses amis.
Je m'interroge sur tout ce qui a pu vous paraître étrange, bizarre dans... Les semaines et les mois qui précèdent sa mort, J'en ai besoin pour obtenir l'ouverture d'une enquête.
Et c'est comme ça qu'elle tombe sur Grégory, l'un des meilleurs amis de Bruno, et surtout sur sa femme, Rosita.
Oh ben moi, j'ai quelque chose à vous raconter. Nancy nous a appelés dans la nuit pour nous annoncer la mort de Bruno. On lui a dit qu'on arrivait, on y est allé tout de suite, et quand on est arrivé, ben on a été un peu surpris quand même, il n'y avait pas de pompiers. Il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait rien. Et elle nous attendait à la porte en fumant sa cigarette. Et puis, quand je l'ai vu, j'ai été surpris quand même par l'aspect du cadavre. Hein. Il montrait à mon avis une grande souffrance. Le corps était crispé, la mâchoire était grande ouverte.
Il a fallu lui casser le bras pour le faire entrer dans le cercueil. Et ce sont eux, Grégory et Rosita, qui ont pris l'initiative d'appeler le médecin de famille pour constater la mort. Nancy fumait sa cigarette.
Et quand le médecin est arrivé, comment ça s'est passé? Oh ben lui aussi, il a été surpris, hein. Ben, par l'allure du cadavre, quoi. Et il n'a pas voulu signer l'autorisation de lever de corps. Et là, Nancy s'est mise en colère, elle disait « Je veux pas que les enfants trouvent leur père dans cet état en se levant demain matin. » Mais il a quand même pas voulu signer. Et donc on a fini par appeler la police pour savoir ce qu'il fallait qu'on fasse. Et les policiers sont venus avec un médecin légiste. Et Nancy leur a raconté toute l'histoire, le cancer, patati patata, que c'était une crise cardiaque après une longue agonie. Elle lui a montré la liste des médicaments qu'il prenait contre la douleur. Hein. Et elle lui a dit qu'il avait déjà fait plusieurs malaises cardiaques. Donc ça fait 300 qu'il était atteint d'un cancer, etc. Il est en fin de vie. Bon, le docteur a fini par signer le constat de décès en notant mort naturelle. Et il a délivré l'autorisation d'inhumation.
Mais ça ne sont pas les seules informations que Rosita donne à Anne-Marie.
Il y a autre chose que je tiens à vous raconter. Ça se passe quelques semaines avant sa mort. Bruno et Grégory sont allés couper du bois. Et vous savez ce qu'elle me dit en aparté, Nancy? Elle me dit, il m'emmerde. Je vais lui donner de la mort au rein. Moi, je lui ai dit, tu plaisantes, on parle pas comme ça. Elle m'a répondu, je dis ça pour rire. Mais j'avoue que ça m'a stupéfait quand même, hein.
Et la copine Rosita raconte aussi que Nancy, après l'enterrement, pour rire, s'est plusieurs fois vantée de s'être débarrassée de son mari. Mais ses amis la connaissent, hein. Ça colle assez bien avec le personnage. Elle a toujours été un peu mytho, un peu cinglée et très provoque. Anne-Marie poursuit sa petite enquête dans l'entourage de Bruno et Nancy. Et cette fois, elle tombe sur une amie de Nancy, Christelle, qui, elle aussi, lui en raconte une bien bonne.
Ben, je vais vous dire la vérité. Elle m'a dit, je vais t'avouer un truc pour te montrer qu'on se fait confiance. J'ai assassiné Bruno. Elle vous a dit ça?
Oui,
elle m'a dit ça.
C'est sérieux?
Est-ce que vous seriez d'accord pour retourner la voir et tenter de la faire parler? Pourriez enregistrer votre conversation avec votre téléphone. Ça me serait très utile.
Ben, si vous voulez, je le ferai.
La copine Christelle contacte donc Nancy, qui a l'air de se méfier, pas bête la guêpe. Mais Christelle insiste, et Nancy finit par accepter un rendez-vous. Elle sait, Christelle, que Nancy consulte régulièrement une voyante. Alors elle utilise ça pour l'amener sur le sujet.
Je vais te poser une question. T'es pas obligé de me répondre, hein. Mais Sylvana, tu la vois? Non, ses cartes, t'as pas peur qu'elle le voie? Ce que t'as fait?
Oh, ben non. J'ai rien à me reprocher.
Elle a dit quoi, enfin? Tu vois, elle qui est si...
Elle m'a dit que j'avais bien fait. Elle m'a dit, t'as fait ce que tu devais faire. Voilà ce qu'elle m'a dit.
Je rigole, mais c'est nerveux. Elle a dit ça comme ça, tout naturellement.
Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, tu dois pas t'en vouloir. De toute façon, t'as abrégé ses souffrances, c'est tout.
Tout ça est enregistré sur le portable de Christelle. Et dès qu'elle est rentrée, elle le transfère à Anne-Marie. Et Anne-Marie a maintenant la preuve qu'elle cherchait. Et donc elle retourne voir son copain le commissaire. Et écoute ça.
Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, tu dois pas t'en vouloir. De toute façon, t'as abrégé ses souffrances, c'est tout.
Et maintenant, le commissaire a matière à ouvrir une enquête. Sachant que pour l'instant, les policiers sont le cul entre deux chaises. À l'écoute de l'enregistrement, il n'est pas certain qu'elle ait assassiné. C'est peut-être une euthanasie active. Certes, hors des clous de la loi, mais rien de plus, c'est moins grave. Pour commencer, les policiers prennent contact avec le médecin légiste qui a délivré le certificat d'inhumé. Et par chance, il a effectué des prélèvements sanguins sur le corps de Bruno Lieber et il les a conservés. Ces échantillons de sang sont envoyés tout de suite au labo et les résultats ne tardent pas. On a trouvé de la strychnine dans le sang de Bruno. C'est un poison mortel tiré d'une plante, la noix vomique. On l'utilisait autrefois pour lutter contre les rats et les taupes, et il y en a encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle la mort aux rats. C'est un poison qui provoque des crampes musculaires, des convulsions, des douleurs abdominales. Et au bout, la mort. La dose retrouvée dans le sang de Bruno Lieber est très élevée, largement supérieure au taux létal. Bruno n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il a été empoisonné. Le 12 août 2015, à 8h du matin, 5 mois après la mort de son mari, Nancy Krings est placée en garde à vue. Mais face aux policiers, elle joue la blanche colombe.
« Mon mari est mort d'une crise cardiaque, je vous l'assure. Il est mort dans mes bras. »
Et donc assez vite, le commissaire qui l'interroge dégaine ses pièces maîtresses.
« Alors madame, voici d'abord les analyses sanguines réalisé sur les prélèvements sanguins effectués sur votre mari dans les heures qui suivent sa mort. Allez-y, regardez. Vous voyez là? Elle révèle une dose très importante d'un poison qui s'appelle la strychnine. Et puis madame, je voulais vous faire écouter quelque chose.
Elle m'a dit, oui, elle m'a dit, tu dois pas t'en vouloir. De toute façon, t'as abrégé ses souffrances, c'est tout.
Et là, Nancy Krings s'effondre en larmes. Elle a l'air tellement secouée que son avocat qui est présent demande et obtient l'interruption de son interrogatoire. Mais la miss file tout de même en prison. Et dans la foulée, on exhume bien sûr le corps de Bruno Lieber en vue d'une autopsie. D'ailleurs, au passage, si c'est vraiment elle qui a tué son mari, s'il n'est pas mort d'une crise cardiaque, on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait incinérer. Cela dit, elle ne l'a pas fait et c'est tant mieux. En attendant les résultats, les policiers vont perquisitionner la maison de Bruno et Nancy. Ils tombent sur une voisine et amie, Fabienne Valmens. C'est elle qui s'occupe des enfants. Elle voit les flics fouiller les placards de la cuisine à la recherche de strychnine. Et d'un coup, elle a l'air de se décomposer.
Si vous savez des choses, madame, dites-le nous. Je sais que de la strychnine a été utilisée. Parce que je suis allé la chercher moi-même chez un brocanteur. Je peux vous dire où il habite.
Ça alors, la voisine est au courant. Et le brocanteur est retrouvé et interrogé. Et il reconnaît qu'il a fourni de la strychnine. Mais il pensait que c'était pour le chien.
Ah, Bruno, c'était un ami. Et il y a longtemps, il m'avait demandé de l'aide pour tuer son chien. Il était devenu, paraît-il, agressif, il avait mordu sa fille, il voulait l'euthanasier. Je lui avais proposé de lui trouver de la strychnine, mais il n'est jamais venu la chercher. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, je dirais, au moins 3 ans plus tard, hein, sa femme Nancy m'a appelé, elle m'a dit la petite a encore été mordue par le chien. Cette fois, on veut en finir avec lui. Est-ce qu'il te reste du produit? Moi, je me suis pas méfié comme eux. J'en avais parlé aussi avec Bruno avant. Ouais, je pensais que c'était pour le chien, quoi.
Le lendemain, la voisine est venue chercher le poison et elle l'a portée à Nancy.
Ah, mais je vous jure que je savais pas ce qu'elle allait en faire, hein.
Peut-être. Cette voisine a l'air d'être un peu attardée mentale. Mais bon, dans cette affaire à ce stade, c'est une complice, objective. Et donc elle aussi file en prison. Le 18 août, Nancy Krings est réentendue par le commissaire. Maintenant, il a assez de preuves pour la faire avouer. Et ça tombe bien, elle est mûre.
Je reconnais. Je reconnais que je lui ai donné de la strychnine. Mais il était invivable. Il me battait, il frappait les enfants. Et en plus du thé des coups, son harcèlement était psychologique. J'avais peur de lui. J'ai essayé de partir hein, plusieurs fois, mais j'ai toujours été obligé de revenir. Sous la contrainte, il me menaçait. Je voyais pas comment m'en sortir. Je voyais pas d'autre issue, quoi, à cette vie qui était devenue monstrueuse.
À l'écouter, c'est de la légitime défense. Elle raconte que le soir du 11 mars, une dispute a éclaté dans la cuisine.
Il m'a engueulé à propos du ménage. Il disait qu'il était toujours mal fait. Alors il m'a cogné. Et là, j'ai décidé de passer à l'acte. J'ai mis du poison dans son verre de Coca-Cola. Et voilà.
Elle dit qu'il en a bu plusieurs gorgées.
Vous savez, j'ai pas de regrets. Ah non. C'était un sale type, vous savez. Je mangeais, je le regrette pas. Ah, ça non. Parce que si c'était pas lui, c'était moi. Si j'avais pas mis fin à ses jours, il aurait fini par me tuer.
Reste à vérifier cette histoire. Bruno Lieber était-il un mari violent? Son entourage reconnaît qu'il était irascible, caractériel, qu'il gueulait facilement.
Ah mais de là, est-ce qu'il ait battu Nancy? Ah non, je crois pas. En tout cas, Nancy, je l'ai jamais vu avec des coups ou avec des cocards, hein. Et les enfants non plus.
Là-dessus, les policiers découvrent que 3 ans plus tôt, en 2012, Nancy a quitté Bruno. Donc si elle voulait le quitter, elle pouvait le faire. Et d'ailleurs, à cette époque, il l'a laissé partir. Et d'après ce que disent les proches, il a même rencontré une autre femme. Ça a rendu Nancy tellement jalouse qu'elle a voulu reprendre sa place.
Et vous savez ce qu'elle lui a dit pour revenir? Elle lui a dit qu'elle était enceinte de lui. C'était même pas vrai. Mais c'est comme ça qu'elle est revenue avec lui.
Là-dessus, tombent les résultats des prélèvements effectués sur le cadavre de Bruno. Sur ses cheveux, dans son système digestif et dans son sang. En matière d'empoisonnement, les cheveux sont toujours très parlants. Ceux de Bruno faisaient 5 cm. Et on trouve de la strychnine sur toute la longueur des cheveux.
Ça veut dire qu'il a été empoisonné sur une longue période. Je dirais au moins 3 mois.
Nancy Krings est réinterrogée, et face à ses résultats incontestables, elle finit par avouer qu'il lui a fallu des mois pour tuer son mari. Pendant des mois, elle a fourré ses repas et ses boissons de mort au rat.
Mais le soir de sa mort, c'est pas moi qui lui ai donné le poison. C'est Fabienne, notre voisine. On s'est disputé avec Bruno, elle a dû nous entendre, elle est arrivée. Moi j'ai préparé le mélange, mais c'est elle qui lui a donné.
Dès lors, la voisine Fabienne Valmens n'est pas seulement complice, elle est acteur du crime. Une reconstitution de la soirée du meurtre est organisée dans la maison. Et elles sont là toutes les deux, Nancy et la voisine Fabienne. Quand Nancy arrive devant la maison, elle éclate en sanglots. Les policiers demandent à Fabienne Valmens de refaire le geste fatidique. Le moment où elle apporte à Bruno le verre empoisonné.
Mais je veux pas jouer ce rôle. Je veux pas faire ce geste, je l'ai pas fait. J'ai pas participé.
Donc, elle va nier. Au cours de l'instruction, les témoignages s'accumulent qui montrent que Nancy a isolé Bruno dans les mois qui précèdent sa mort. Personne ne pouvait plus le voir, y compris sa propre sœur. Et bien sûr, il n'avait pas de cancer, il n'en a jamais eu, elle a tout inventé. Et c'était assez facile puisque Bruno refusait de voir les médecins. Et lui-même, Bruno, pensait qu'il avait un cancer. Le procès de Nancy Krings et Fabienne Velmens s'ouvre le 2 février 2017 au palais de justice de Verviers, en Belgique. Il dure une seule journée, pendant laquelle Nancy Krings ne cesse de répéter
« Il était très violent avec moi. Alors non, je regrette pas mon geste. »
Mais de son côté, l'accusation a des biscuits pour démontrer que non, il n'était pas violent et que le mobile de cet assassinat, c'est sans doute l'argent. Comme toujours, elle l'a tué pour hériter de lui. Le ministère public, à la fin, réclame 25 ans de prison contre elle et 10 ans contre sa voisine Fabienne. Le verdict est plus clément. Nancy Krings est reconnue coupable d'assassinat et est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Et Fabienne Velmens est reconnue non pas comme co-autrice de l'assassinat, mais seulement comme complice. Elle est condamnée à 6 ans. Et nous sommes maintenant en direct avec Anne-Marie Lieber. Vous êtes donc, Anne-Marie, la sœur à qui l'on doit tout dans cette enquête, la sœur de Bruno. Un commentaire peut-être sur le verdict pour commencer. Elle a été condamnée à 20 ans, mais si j'ai bien compris, elle n'a pas fait vraiment 20 ans. Hein.
Mais elle est toujours incarcérée, hein, mais elle ne peut pas demander à sortir avant d'avoir effectué 6 ans accomplis d'incarcération.
D'accord. Donc elle est toujours en prison à cette heure-ci. Une journée de procès seulement. Je ne crois pas qu'on ferait ça en France. Je ne suis même pas certain qu'on fasse ça couramment en Belgique. On ne juge pas deux personnes pour assassinat en une journée.
Non. Il n'y a eu... Personne n'a été entendu. Il n'y a pas eu de juré. Il n'y a rien du tout. C'était juste le juge unique. Et voilà. Ça s'est débattu sur une journée. Mais à peine une journée, hein.
Est-ce que ça vous gêne, vous, que la voisine Fabienne soit ramenée à un rôle secondaire ou est-ce que vous pensez que le juge a eu raison ?
Non. Pour moi, elle savait très très bien ce qui se passait. Elle était fort complice avec Nancy. La preuve, c'est qu'elle savait bien qu'il fallait aller chercher de la strychnine. Voilà. Elle était au courant, pour moi. Elle savait très bien ce qui se passait.
Mais est-ce qu'elle était plus qu'au courant ? C'est-à-dire, est-ce que, selon le scénario de Nancy, c'est elle qui lui donne le dernier verre de strychnine ?
Elle a toujours nié le lui avoir donné, la Fabienne. Maintenant, mais elle savait que Nancy avait préparé quelque chose. Puis elle est repartie chez elle. Et une fois que Nancy a eu tout fait, elle est sortie pour aller boire sa tasse de café, fumer sa cigarette et dire à Fabienne, voilà, c'est fait.
Elle était sous emprise, non, Fabienne de Nancy? Enfin, j'ai entendu parler de gens qui disaient ça.
Oui, mais elle a reconnu elle-même hein, qu'elle a marché dans le sens de Nancy parce qu'elle ne voulait pas perdre une amie. Voilà.
C'était une femme un peu faible, un peu fragile.
Oui, exactement. Oui, un peu beaucoup même.
Vous, à partir de quel moment, au fond, est-ce que vous commencez à avoir des doutes sur la mort de Bruno? Est-ce que c'est immédiatement? Est-ce que c'est quand vous entendez ces voix? Je me suis gentiment moqué de vous, j'espère que vous n'en avez pas pris en bras, je n'y crois pas, moi. Mais je vous laisse aussi le droit d'y croire.
Non, c'est une fois que je me suis trouvée au funérarium, j'entendais mon frère qui me disait « On m'a fait mourir ». Et puis voilà, et je savais que c'était réel, ce n'était pas... c'est pas des histoires, mais bon, tout le monde est libre d'y croire ou de ne pas y croire.
Ça veut dire que pendant qu'il était censé avoir ce cancer, dont vous êtes informé très tardivement, vous qui êtes sa sœur, vous vous dites déjà qu'il est bizarre ce cancer ?
Non, très honnêtement, non. À ce moment-là, j'y ai cru comme tout le monde. Elle a tellement été convaincante dans les détails qu'elle nous racontait. Mais bon, ce n'était toujours que par téléphone puisqu'on n'avait pas le droit de voir mon frère. Donc on n'a pas pu se rendre compte sur place, c'est ça le problème.
Mais elle vous disait, conversation après conversation, il a un cancer, et vous la croyez ?
Ben oui, d'après ce qu'elle racontait, voilà, ton frère a un cancer aux sûrement des intestins, quand il va à la toilette, on l'entend hurler dans toute la maison tellement il a mal, et puis voilà.
Mais ça collait avec la personnalité de Bruno de ne pas se soigner d'un cancer ?
Même que Bruno soit au courant qu'il avait un cancer, je ne peux pas dire. Ça, je ne sais pas si lui était vraiment au courant. Maintenant, peut-être qu'il aurait eu un doute quelque part ou qu'elle lui aurait sous-entendu. Mais Bruno, de toute façon, les hôpitaux, les médecins, les piqûres, il ne voulait rien savoir, lui. Hein. Il avait peur de tout ça.
Donc ça, c'est vrai.
Ah oui. Pour ça, il avait peur, oui.
Il avait peur de tout ça. C'est assez cohérent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Nancy, qu'évidemment nous ne connaissons pas, et vous, que vous connaissez très bien ? Mon sentiment est que vous ne l'aimiez pas même avant.
Ben, je ne lui ai jamais fait 100% confiance. Voilà, c'était... On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas logique parce que elle a quand même quitté 3 fois, hein, pas une fois, mais 3 fois mon frère. Et à chaque fois, elle est revenue. Donc, comme je dis, c'est soi-disant, elle était battue. Il n'y a jamais eu de constat. Il n'y a jamais eu de plainte au niveau de la police pour coup ni pour quoi que ce soit. Pourquoi revenir ?
Mais quel genre de femme est-ce que c'est, Nancy ? On l'a dit, un peu mythomane, un peu... C'est une originale, elle est un peu folle-dingue ?
Oui, elle est... elle avait un petit peu les folies de grandeur, comme on dit. Hein. Elle aimait bien la belle vie. Voilà, si elle aurait pu sortir et s'amuser. D'ailleurs, c'était un peu pour ça qu'elle quittait mon frère. Il était plus casanier, lui. Hein. Il était plus maison, boulot, puis voilà.
Ouais. Et elle aimait bien aller faire la fête
Elle aimait bien s'amuser. Et d'ailleurs, quand elle le quittait, elle ne s'en privait pas. Hein.
Alors, si vous ne vous étiez pas remué, le sentiment qu'on a, c'est qu'il n'y aurait jamais eu de suite à cette histoire.
Non, jamais personne n'aurait rien fait. Ses enfants, les grands, hein, les deux aînés, n'ont rien fait non plus. Pourtant, ils ont été mis au courant par Rosita.
Oui.
Surtout le fils a été mis au courant. Il a entendu l'enregistrement et il n'a pas réagi, il n'a rien voulu faire. D'ailleurs, il refusait même qu'on fasse déterrer son père pour faire une autopsie. Hein. Il n'était pas d'accord.
Ils ne voulaient pas voir que leur mère avait tué leur père. C'est normal.
C'était pas leur mère, c'est leur belle-mère.
Hein. Leur belle-mère.
Oui.
C'est normal.
Non, c'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal.
Quel âge il avait, l'aîné ?
Il avait à peu près une trentaine d'années. Je ne sais pas l'âge exact qu'ils ont.
D'accord.
Ils sont dans ces zones-là, en tout cas. Hein. Sauf les 3 petits. Hein. Il y avait encore les 3 petits, là, que Bruno avait eu. Qui était avec Nancy, oui.
Qui était en commun. Alors, il y a un truc, moi, qui me saute aux yeux, je pense qu'à vous aussi, ça, c'est un truc un peu de spécialiste, mais enfin, je n'ai jamais vu pire criminel que Nancy. Parce que elle fait tout pour se faire remarquer. Enfin, quand on tue son mari, on met pas une robe rouge aux obsèques et on pleurniche. Au contraire, on en rajoute.
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, elle a embrassé sur le cimetière son nouvel amant. Hein. Elle a carrément embrassé. C'était... une connaissance qui était là, qui avait déjà rencontré Bruno.
Ah, d'accord.
Qui développait plus ou moins la même passion, parce que Bruno était passionné de tout ce qui était de la guerre 40-45. Donc, il avait fait un musée chez lui, dans son grenier, qui était superbe.
Mm-hmm.
Et voilà, qui avait été d'ailleurs estimé à 75 000 euros. Et voilà, c'est comme ça qu'ils connaissaient ce monsieur-là. Et apparemment, Nancy s'était déjà entichée de cet homme-là, quoi.
Donc c'est quand même une meurtrière assez misérable. Elle ne pense même pas à se dissimuler. Il faut, si on a tué son mari, il faut observer un minimum de délai.
Ah non, elle s'en vantait. Voilà.
Ça dit quoi de son personnage, ça, et de son caractère ?
Ça prouve bien que, comme elle le disait, ça a tellement été bien fait, parce que c'est ce qu'elle a dit à Christelle qui l'avait enregistré, ça a tellement été bien fait que c'était indécelable. Donc elle se sentait très très sûre d'elle, mais vraiment très sûre.
Parce que la deuxième chose qu'on fait quand on a tué son mari, c'est surtout l'incinérer, dès qu'on vous a rendu le corps.
Oui.
Là encore, elle le laisse enterrer, elle s'expose à une autopsie de contrôle.
Oui, mais au départ, elle en avait parlé, mais tout le monde faisait opposition là-dessus, parce que Bruno avait toujours dit qu'il n'avait pas question, il ne voulait pas être brûlé, parce que notre mère est décédée, brûlée dans la maison. Hein.
D'accord.
Donc, il était hors de question qu'il se fasse brûler, quoi.
Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie Lieber, d'avoir accepté de revenir sur cette triste histoire qui se déroulait donc à Trois-Ponts, près de Liège, en Belgique.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.